Comment donner une belle, une bonne place aux mathématiques et aux plaisirs qu'ils procurent à l'école et dans nos vies? Être et savoir. Louise Touret. Je vous parlais récemment de l'année de la bande dessinée. Elle s'est ouverte au Festival d'Angoulême. Et bien, sachez que c'est aussi celle des mathématiques pour l'année scolaire 2019-2020. Alors, comment redonner une vraie belle place aux mathématiques à l'école et au-delà pour nous, adultes? Est-ce qu'on peut encore apprécier les mathématiques ou même les apprécier d'une manière inédite après l'école qui nous a parfois fait souffrir hein, dans cette discipline? Discipline rigoureuse, mais aussi une matière qui sert à trier les élèves, à les orienter vers des séries ou des choix d'options avec le nouveau bac. Et ces choix sont classés par ordre de prestige en fonction de l'importance des mathématiques. Alors on va voir hein, si c'est toujours d'actualité. Comment dès lors sortir de cet usage des mathématiques pour faire retrouver le goût du jeu, de la recherche et du raisonnement logique à tous les âges? La réponse à cette question occupe aussi les mathématiciens. Cette émission est pensée et préparée en collaboration avec Avril Ventura. Un grand merci à notre stagiaire Mostefa Mostefaoui. Nathalie Sall en assure la réalisation aujourd'hui. On la remercie aussi, ainsi que Marie-Claire Oumabadi qui est à la prise de son. Enfin, Sophie Bobert est aux commandes de la leçon de choses. C'est tout à la fin de l'émission avec aujourd'hui Lucie Branco, première femme tailleur de pierre. Elle a intégré les Compagnons du Devoir et elle a publié un livre, On ne bâtit pas des cathédrales avec des idées reçues. Et je salue mes invités. Bonjour Charles Torossian.
Bonjour Louise.
Vous êtes chercheur au départ, vous avez longtemps été chercheur au CNRS, 17 ans m'avez-vous dit. Vous êtes mathématicien évidemment, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, directeur de l'IH2EF, je viens d'apprendre que c'est l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation et conseiller spécial auprès de la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire. Ça, on connaît bien puisque Édouard Geffray était récemment notre invité à propos de la réforme du lycée. Vous êtes aussi le co-auteur d'un rapport avec Cédric Villani, célèbre mathématicien et un peu homme politique, mais ça, c'est vraiment un autre sujet. Donc, co-auteur d'un rapport publié en 2018 par le ministère de l'Éducation nationale, un rapport qui contenait 21 mesures pour l'enseignement des mathématiques, parmi lesquelles inscrire l'enseignement des mathématiques parmi les priorités nationales. On y est là, c'est dans les priorités?
Absolument, depuis la sortie du rapport, non seulement on écrit des rapports, mais on essaye de les mettre en œuvre en temps fini. Et j'ai une mission de la part du ministre de mettre en œuvre l'ensemble de ces 21 mesures sous 2 ans, et on a déjà fait 18.
Bon, des enseignants de mathématiques hein, vous répondront sur cette question, parce que est-ce que pour eux aussi, ça semble être devenu une priorité nationale? On a hâte de le savoir avec Raphaël Lander, qui est professeur de collège, et Caroline Cournil, qui est professeur de lycée. On reparlera des épreuves anticipées du bac 2021. Avec nous également, Michaël Launay, bonjour.
Bonjour.
Je suis ravie de vous accueillir. Également, vous êtes mathématicien, vous êtes vulgarisateur, parce que vous êtes vidéaste, vous êtes créateur d'une chaîne YouTube qui a un joli nom, Micmath, qui compte environ 450 000 abonnés, c'est beaucoup.
Oui, pour des maths, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça au départ, mais ça fait plaisir.
Un si grand chiffre. Vous êtes également l'auteur de plusieurs livres. Dernier en date, Le théorème du parapluie ou l'art d'observer le monde dans le bon sens, c'est publié chez Flammarion. On a remarqué avec Avril Ventura que les livres qui parlent de mathématiques ont toujours des titres un peu comme ça, intrigants.
Oui,
pourquoi
c'est
le
ça.
Théorème du parapluie?
On essaye d'accrocher l'esprit, on essaye d'accrocher la curiosité, parce que c'est vrai que ça paraît un peu contradictoire, ce côté théorème, ça paraît très rigoureux, c'est quelque chose de mathématique, quelque chose de précis. Puis le parapluie, c'est juste un objet de la vie quotidienne qu'on utilise. Alors qu'est-ce que les parapluies peuvent avoir avec les mathématiques? Qu'est-ce que ça peut avoir là-dedans? Alors ça, c'est toujours assez agréable quand on fait des mathématiques, et c'est une bonne manière justement d'attirer l'attention, de partir de petites observations de la vie de tous les jours, des choses qu'on voit tous, dont on a l'habitude sans forcément s'en rendre compte. Et puis à partir de là, eh bien commencer à faire des petites réflexions, puis tirer le fil, et puis peu à peu se dire « Ah, mais en fait, on est en train de comprendre des choses assez profondes sur le monde et sur le fonctionnement de notre univers. » Donc, c'est toujours assez intéressant.
C'est une science aussi, et donc c'est l'observation qui est au départ de la démarche scientifique. Mais il y a aussi la démarche des youtubeurs. Et vous avez fait des vidéos croisées avec, par exemple, des youtubeurs qui sont extrêmement célèbres du côté des enfants et des ados. Je ne les connaîtrais pas si je ne connaissais pas des adolescents. C'est McFly et Carlito. Et pour se faire une petite idée de ce dont on peut parler sur Micmac, je vous propose d'écouter un petit extrait sur les probabilités.
Alors là, on est parti avec les dés et il y a un autre exemple classique qu'on voit souvent dans des sujets, c'est des exemples d'urnes avec des tirages au sort de boules à l'intérieur. Donc là, on a un exemple avec des boules de 4 couleurs et donc on va essayer de calculer les probabilités de tirer certaines couleurs. Donc la première chose qu'il y a à faire, c'est compter les boules de chaque couleur.
Jaune, J égale 6.
R7. B4.
B4, V2.
Ok, donc maintenant que vous avez ça, si on tire au hasard une boule à l'intérieur de cette urne, quelle est la probabilité qu'elle soit bleue?
Alors, bleue, je dirais 2 sur 19.
4 sur
19. Non, 4 sur 19.
Oui, c'est ça, 4 sur 19. Maintenant, on va regarder ce qu'on appelle les probabilités conditionnelles. Donc, une probabilité conditionnelle, c'est on va donner une information, pas complète, et vous allez devoir en déduire des informations sur les probas qui restent. Donc, si je vous dis probabilité de bleu, sachant, donc qui s'écrit avec un trait comme ceci, sachant que la boule n'est pas jaune. Donc, on tire une boule à l'intérieur de l'urne, et je vous donne l'information, elle n'est pas jaune. Qu'est-ce que vous pouvez en déduire?
Ok, je vais me dire, mais il y a toujours autant de boules.
Il y a toujours autant de boules.
Les jaunes sont là, mais on est sûr de ne pas tirer une jaune.
Les jaunes sont là, mais je la tire, la boule, et je vous informe qu'elle n'est pas jaune.
Ça m'a donné envie de vomir. Tu te rends compte ce que ça a fait dans mon cerveau?
Une vidéo qui parle donc de probabilité. Charles Torossian, ces vidéos qui circulent, il n'y a pas que celle de Michael Lenet, et on parle de mathématiques un peu différemment. Qu'est-ce que ça inspire un professeur et chercheur en mathématiques tel que vous?
Alors, les vidéos, il y en a énormément. Et on parle, ça renvoie à la question des ressources. On a les professeurs de mathématiques, on a quasiment 50 000 professeurs de mathématiques. Ils se sont tous mis à faire des petites vidéos. C'est absolument colossal la masse de choses qu'on a sur Internet. Rien que sur le produit scalaire, par exemple, qui est un sujet qui est abordé en classe de première.
Le produit scalaire.
Oui, qu'importe. On a,
non, mais c'est bien
sur YouTube,
de
on a 200 vidéos sur le produit scalaire fait par des professeurs de maths en français. Et si on rajoute l'anglais, là, on dépasse les milliers. Donc, en vérité, c'est depuis maintenant une dizaine d'années. C'est un outil pédagogique qui marche bien. Le CNED les utilise. Des professeurs les utilisent dans leur classe. Pour l'éducation nationale, je dirais que nous sommes un petit peu en difficulté pour suivre le mouvement. Ça va tellement vite, il y a tellement de production, qu'on ne sait plus où donner de la tête. On aimerait avoir une sorte de base vérifiée, labellisée concernant toutes ces vidéos. Et il y en a tellement, tellement qu'on n'arrive pas à, disons, à toutes les voir et à dire celle-là, elle est bien, on peut la montrer à tous les élèves. Voilà. Donc, en fait, on est devant une petite difficulté technique qu'on n'arrive pas à surmonter.
Intéressant, Michael Lenet, le produit scalaire, en deux mots.
Le produit scalaire, alors c'est un peu technique. On parle de vecteur. Alors, quand on parle de vecteur, on fait de la géométrie et on dessine grosso modo des flèches qui représentent par exemple des déplacements. C'est-à-dire que quand on étudie la vitesse de quelque chose, on utilise un vecteur parce que ça est la vitesse. Eh bien, elle va dans une certaine direction, on peut la représenter par une flèche. Et donc, le produit scalaire, c'est une façon de multiplier les flèches d'une certaine manière, parce que quand on fait des mathématiques, c'est toujours intéressant d'étendre ce qu'on connaît déjà. Vous savez, quand on est petit, on apprend à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis après, quand on peut par exemple faire une soustraction 3 moins 6, on nous dit c'est pas possible. Parce qu'on peut pas soustraire 6 de 3. Si on a 3 pommes, on peut pas en prendre 6. Et puis un jour, on invente les nombres négatifs. Et on adore faire ça en maths. C'est aller dans l'abstraction et petit à petit inventer des choses qui n'existent pas vraiment, mais qui quand même simplifient notre façon de penser. Et donc, quand on a des flèches comme ça, qu'on dessine sur un plan, eh bien, on peut inventer une façon de les multiplier, et une façon qui est très élégante et qui permet de faire des tas de choses. En sciences physiques, il y a des tas d'applications à ça.
Ça rappelle quelques souvenirs de lycée. En même temps, on entend un peu que l'image nous manque. C'est pas mal aussi des images pour les démonstrations mathématiques. Michael Lenet a parlé de l'acquisition du nombre quand on apprend à compter. Et à quel moment, parce que c'est indiqué dans le rapport et ça a retenu mon attention, Charles Torossian, à quel moment les mathématiques commencent à rendre des élèves, pas tous les élèves, mais des élèves malheureux?
Alors, la question est difficile. Les élèves adorent les maths quand ils sont petits, ça on le sait, et même jusqu'au collège, quand vous demandez aux élèves quelle est votre matière préférée, alors on ne sait pas si préférée ou plus importante, on ne sait pas exactement si la réponse n'est pas un petit peu biaisée par la société, mais en tout cas les maths arrivent très très haut avec le PS par exemple. Donc ce qui est vrai, c'est qu'on mesure un léger différentiel entre les filles et les garçons dès le CE1. Vous voyez, mais jusqu'en quatrième, globalement, les enfants aiment beaucoup les mathématiques.
Les mathématiques et le sport, hein, EPS.
Voilà, l'EPS et le sport. Donc, on n'a pas vraiment de soucis. Il y a une grosse adhésion du public, des enfants, à l'égard des mathématiques, j'allais dire, jusqu'en quatrième. Et donc, le point, c'est la fin du collège, qui correspond à des périodes un peu difficiles, j'allais dire, pour nos adolescents, et en même temps, des exigences autour, justement, du raisonnement. Et c'est cette jonction des deux phénomènes rend ça c'est un petit peu difficile à ce moment-là.
Eh bien, avant de parler avec un professeur de collège qui sera avec nous au téléphone, je voulais vous faire écouter une de vos collègues, une mathématicienne. Elle s'appelle Isabelle Gallagher. Elle est professeure à l'Université Paris Diderot et à Normale Sup. Elle est présidente de la Fondation Sciences Mathématiques de Paris et elle regrette que la discipline soit devenue excluante.
Eh bien, en fait, ce que je peux dire déjà, c'est que, en tout cas, le rôle qu'elle joue n'est pas celui que je pense qu'elle devrait jouer. Moi, je vois les mathématiques beaucoup en ce moment, en tout cas en primaire et au collège, comme un outil de sélection, de discrimination, et ça devient une discipline qui est davantage clivante, voire même excluante, qu'une discipline comme une autre. Et du coup, un enfant qui n'aurait pas de goût a priori ou un contexte familial qui l'aiderait à aimer les maths, voit les maths seulement comme cette discipline qui clive, qui discrimine, qui classe. Alors pour moi, les maths devraient être au contraire une discipline où on apprend évidemment les bases, on peut imaginer en primaire, compter, calculer, etc. Mais surtout, c'est pour moi une discipline où on apprend à réfléchir, en fait, à apprendre à contredire, à réfuter. En fait, du moment où on a des arguments pour ça, c'est une discipline où on peut très bien dire à quelqu'un de plus avancé, à son enseignant, qu'on n'est pas d'accord, si on arrive à démontrer pourquoi on n'est pas d'accord.
Michael Launay, après avoir entendu Isabelle Gallagher, sur quel point souhaitez-vous réagir en premier? Est-ce que c'est le fait que les mathématiques peuvent être excluants, ou aussi, et c'est très intéressant, le fait que ce soit une discipline dans laquelle on peut se contredire et batailler?
Oui, effectivement. Et puis, les enfants adorent ça très tôt quand on leur propose des débats. C'est-à-dire quand on commence à réfléchir aux mathématiques et qu'on commence à se poser des questions un peu de recherche, parce que c'est ça, en fait, la recherche en mathématiques. Quand on est parfois dans le processus scolaire, on a des questions qui sont dans le livre, et puis il faut y répondre, et puis il y a des méthodes pour y répondre. Mais en fait, ce qui est passionnant dans la recherche, c'est aussi de trouver soi-même les questions. Alors, des fois, on a un domaine, on comprend pas très bien, on se dit, tiens, on va essayer de répondre à telle question. Et puis, au bout d'un moment, on se rend compte que la question n'est pas intéressante, donc on va changer la question. Et puis, on va se dire, c'est plutôt ça qui nous intéresse, finalement. Et c'est aussi toute cette démarche qui peut provoquer, des questionnements, qui peut provoquer, justement, des débats en classe, et parfois sur le vocabulaire, sur qu'est-ce que signifie un mot, qu'est-ce que c'est qu'un angle, qu'est-ce que c'est qu'un carré, qu'est-ce que c'est qu'un angle droit. C'est des choses où, quand on demande ça spontanément aux enfants, des fois, ils donnent des définitions qui sont légèrement différentes, qui donnent des cas de figure un peu différents. Typiquement, vous prenez un carré. Un carré, quand on se représente mentalement, on imagine toujours un carré qui est à plat, avec ses deux côtés horizontaux et deux côtés verticaux. Et si on le tourne de biais, beaucoup d'enfants vont dire que c'est un losange. C'est-à-dire si on le tourne de 45 degrés avec les pointes vers le
haut. Là, je visualise très très bien. Ça va.
Et alors du coup, ça crée des débats. C'est-à-dire, on dessine un carré en diagonale au tableau. On demande, alors est-ce que ça s'appelle un losange ou un carré? Et là, les enfants peuvent débattre, peuvent avancer des arguments, dire, non mais c'est pas parce qu'on l'a tourné, c'est quand même la même figure. Donc si c'était un carré avant d'être tourné, voilà. Puis d'autres qui disent, oui mais ça c'est aussi un losange quand même. Donc, quand on apprend à ce que c'est un losange. Et donc, est-ce que c'est l'un, est-ce que c'est l'autre, est-ce que c'est les deux? Et donc c'est toujours très intéressant d'avoir ce genre de débat, et c'est un exemple parmi d'autres, mais sur quasiment tout le vocabulaire mathématique et sur toutes les notions mathématiques, on peut avoir ce type de débat que les enfants adorent vraiment.
Charles de Rossian, du coup, c'est sur vous que tombe la question de l'exclusion par les mathématiques, le fait que des élèves se retrouvent au fil de leur scolarité de plus en plus déconnectés de l'intérêt des mathématiques. Quand bien même ils arrivent à avoir des résultats convenables, ils ne sont plus dans le raisonnement mathématique, et on sait qu'on peut arriver très loin dans sa scolarité en ne comprenant pas très bien ce qu'on fait en cours de mathématiques.
Alors ça, c'est vrai. Et ça, c'est un vrai problème et qu'on essaye de résoudre dans notre rapport avec Cédric Villani. C'est pour ça qu'on qu'on a commencé à réfléchir en tant que mathématicien, finalement, l'enseignement des mathématiques de la maternelle jusqu'à la licence. Et c'est ça notre ambition, c'est effectivement redonner une sorte de colonne vertébrale intellectuelle autour des mathématiques. Qu'est-ce qu'on a loupé? Alors, on sait qu'il y a des choses qui ont, dans l'histoire récente de l'éducation, par exemple le calcul, on a pensé que le calcul, ça posait un problème, et donc on a essayé de diminuer l'apprentissage au calcul. Alors, ça partait d'une louable intention en disant les mathématiques, c'est pas du calcul, bien que, en tant que mathématicien, je conteste cette affirmation. Les démonstrations sont toujours réductibles au calcul.
Ça, c'était à quel moment, à peu près?
C'était il y a une quarantaine d'années. Mmh. Et donc, en disant, on va essayer de faire des choses qui sont plus fun, avec les mains, etc. Et très bien. Et ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que le fait que les enfants, au bout d'un moment, n'avaient plus d'automatisme sur les calculs, c'est que les calculs, ça a commencé à stresser, en fait. Et vous voyez, plus vous avancez dans l'âge, plus vous avez besoin, finalement, d'avoir une sorte d'aisance intellectuelle vis-à-vis du calcul. C'est enfin un peu comme, si vous voulez, quand vous avez 25 ans, si vous hésitez entre CES et SES, à un moment, ça commence à vous stresser dans votre raisonnement. Et donc, du coup, on a loupé une marche qui est l'acquisition du raisonnement, justement ce que dit Michael, se poser des questions, essayer de réfléchir en profondeur, sans être embêté par un côté un peu technologique des mathématiques, c'est-à-dire un côté technique. Les mathématiques, c'est pas juste des paroles, il y a aussi un côté un peu technique qu'il faut pouvoir aborder avec courage. Et ça se construit en fait à partir de la maternelle. Donc nous, ce qu'on propose, c'est justement permettre à tous les enfants, et parce qu'on est persuadé que tous les enfants peuvent avoir une aisance de vocabulaire, c'est comme parler dans une langue, tout le monde arrive à s'exprimer librement dans une langue. Et donc ça, c'est d'avoir les bases. Et pour pouvoir justement, au lieu d'avoir des cours qui vont se concentrer sur des professeurs qui sont un peu désespérés parce que les élèves de première, vous savez, un élève de première, des fois, il hésite sur des fractions élémentaires qu'on voit en sixième. Vous savez que la moitié des enfants de 12 ans pensent qu'un quart, ça vaut 1,4. Et que la multiplication 35,1 fois 100 est échouée par plus de la moitié des enfants de 12 ans. Et donc, évidemment, après, c'est difficile d'être à l'aise sur des choses intéressantes dans les mathématiques. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est d'évacuer la question du calcul, en sachant que c'est indispensable, donc on crée des automatismes, pour pouvoir se concentrer aujourd'hui sur les choses importantes dans les mathématiques, c'est savoir répondre à la question suivante: qu'est-ce qui reste quand j'ai tout oublié de mon apprentissage des mathématiques et qu'on aura dépensé 8 milliards d'euros par an pour l'apprentissage des mathématiques à l'égard des Français?
On va rester non pas sur ce chiffre, mais sur la notion de plaisir et de ce qui reste quand on a oublié, par exemple, les histoires de vecteurs dont on parlait en début d'émission. On parle d'école, évidemment, si on parle d'enseignement des mathématiques. Et donc, il faut donner la parole au professeur. On a choisi d'abord de donner la parole à un professeur de collège. Ensuite, on entendra une enseignante au lycée. Raphaël Ander, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant dans l'Académie de Créteil, vous êtes donc en collège, vous êtes syndiqué au SNES, il faut le préciser. Ouais. Et quand on a discuté pour préparer cette émission, vous m'avez donné une note qui est la moyenne des élèves en mathématiques au brevet dans votre académie. Et j'avoue que j'ai été très étonnée. C'est combien?
Oui, alors je n'ai pas pu repasser chez moi pour réviser, j'ai besoin de réviser comme tout le monde. Je ne sais plus si c'est 5 sur 20 ou 6 sur 20. Sur l'Académie de Créteil, qui est une académie tout à fait représentative avec des bons établissements et des établissements où il y a beaucoup plus de difficultés. Bon, le mien, il est dans le 93, donc il est plutôt dans la deuxième catégorie. La conclusion que j'en tire, moi, c'est que cet examen du brevet, qui en fait est l'aboutissement de tout notre travail sur les 4 années de collège, il pose un niveau d'exigence qui est exorbitant pour des élèves. Tous les élèves. Si moi je fais demain un contrôle où la moyenne c'est 6 sur 20, c'est pas mes élèves que je vais remettre en question. C'est mon contrôle, c'est mon enseignement, et je vais me dire que j'ai demandé des choses qui étaient inaccessibles à des élèves de cet âge-là. Voilà. Donc je pense que la donnée, elle est, pour moi, elle est là. C'est-à-dire que on a une institution qui nous dit effectivement il faut le plaisir, il faut que les mathématiques c'est pour tout le monde. Mais le brevet qui pilote tout l'enseignement au collège, il est très élitiste en réalité.
Alors Charles Taurossian vous répond. sur ce brevet, parce qu'on parle le plaisir des mathématiques, YouTube, peut-être en classe quand on est petit, et puis est-ce que c'est là finalement que le couperet tombe et que va s'éteindre avec cette évaluation la possibilité de trouver du plaisir, même si on n'a pas des très bonnes notes?
Alors, bon, je réponds à M. Ender, qui est professeur dans la chimie de Créteil. Alors, c'est vrai que sur les résultats du DNB, l'Académie de Créteil est quand même sensiblement différente des autres académies de France. Donc il y a déjà un petit delta, disons, ça il faut le signaler. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, que disent ces évaluations finalement? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est exactement ce que
je disais.
C'est la question, c'est ce que je disais juste avant. C'est-à-dire que ces évaluations montrent que le continuum, j'allais dire, autour des apprentissages du calcul n'a pas été acquis entre le primaire jusqu'au collège, parce que justement on n'a pas su installer un enseignement assez efficace autour du calcul pour évacuer justement le calcul. Et c'est ça ce qui a été peut-être mal compris par nos enseignants. Les mathématiques, le cours de maths sert pas à faire du calcul, c'est justement de faire autre chose. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas faire l'apprentissage du calcul. Or, quand vous avez à un moment, quand vous testez quelque chose par écrit, ce qui est différent de l'oral, hein, et c'est pour ça qu'on met par exemple l'épreuve d'oral en terminale, l'oral et l'écrit. À l'écrit, à un moment, il faut donner un argument où il y a un vague petit calcul à faire. Et c'est souvent ça qui bloque. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses, l'élève peut faire des raisonnements, et puis finalement se trouve très stressé, il a dans sa tête, il sait ce qu'il faut faire, mais justement, il échoue sur des choses simples qui remontent au primaire. Et donc,
On va faire répondre l'enseignant de collège, Raphaël Ander. Est-ce que vous trouvez que vos élèves arrivent au collège avec des lacunes? Alors, je ne redis pas ce qu'on a dit dans des émissions précédentes, mais on sait que les professeurs d'école élémentaire ne sont souvent pas des scientifiques de formation, et que pour eux, parfois, les mathématiques peuvent poser problème. Ça dépend aussi de la formation des professeurs. Mais donc, votre vision de la situation et du niveau de vos élèves à l'entrée en sixième, Raphaël Ander?
Oui, le niveau de mes élèves à l'entrée en sixième, il est inégal et il va y avoir des grandes disparités. Je trouve que on pourrait les résorber, ces disparités, et en conservant le plaisir de faire des mathématiques, si on n'avait pas des injonctions qui partent dans tous les sens, et notamment puisqu'on avait attaqué sur le brevet. Alors c'est pas pour me focaliser sur le brevet, mais là j'entends ce que dit Monsieur Jorossian, mais la réalité, c'est que, en fait, on ne sait pas ce qui pose problème aux élèves, puisque la plupart du temps, ils rendent des copies quasiment blanches. Et notamment, ils sont bloqués sur des exercices qui sont devenus très à la mode dans les injonctions qui viennent de tout en haut, qui sont les exercices où on rajoute du contexte autour, effectivement, de calculs qui, par ailleurs, ne sont pas forcément d'ailleurs les plus intéressants que ça de faire.
Mais ça veut dire quoi, le contexte? C'est des problèmes avec des trains qui circulent, des choses comme ça?
Je vais donner deux exemples, par exemple, qui m'ont frappé, moi, dans ce que j'ai pu voir. C'est poser à des élèves, donc y compris les miens, ils vivent en HLM dans le 93, des problèmes sur couvrir son toit avec des bottes de paille. Ou alors leur parler des marées. Alors, en 93, les marées, on n'en voit pas tous les jours. Donc, c'est pareil. En fait, ça bloque et ça crée des inégalités entre des élèves qui ont un capital culturel par leur famille, leur voyage, etc., et puis des élèves qui n'ont pas ce capital-là.
Alors, je suis sûre que Charles Torosin a des trucs à dire, mais moi, j'ai envie d'entendre Michael Lenné sur cette question, parce que c'est intéressant, cette histoire de contextualisation. Vous nous parlez de parapluie. Il y a beaucoup d'images hein, dans le livre, et ça fait vraiment voyager l'esprit, même quand on n'arrive pas forcément à tout saisir, ou en tout cas, on met du temps. Pour vous, est-ce que ça a sa place dans l'enseignement? Vous n'êtes pas spécialiste de l'enseignement, mais est-ce que ça peut aider à se représenter les choses, ou est-ce que ça peut, au contraire, embrouiller l'esprit?
C'est parfois, justement, ça devient presque une blague parfois.
C'est l'âge du capitaine.
C'est l'âge du capitaine, ou des fois des exemples où on dit on va au marché pour acheter 72 melons, mais qui achète 72 melons au marché? Et des fois, ça devient, on caricature ce genre de problèmes qui sont effectivement, qui peuvent paraître déconnectés de la réalité. Et c'est vrai qu'il faut trouver l'équilibre. Et alors ça, c'est vrai qu'il faut partir des enseignants pour ça, parce que c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui voient les élèves. Et donc, je ne peux pas dire, c'est ici qu'il faut placer le curseur, mais c'est une question d'équilibre assez subtil entre faire des choses qui vont parler aux élèves, qui sont dans leur contexte, qui sont dans leur monde, et puis d'un autre côté l'abstraction, parce que ça fait aussi partie des mathématiques, à un moment donné, de poser des problèmes qui sont déconnectés du réel, et c'est passionnant. Il ne faut pas croire que ça fait peur aux enfants, ça, parce que, en fait, ça fait plus peur aux adultes qu'aux enfants, et des fois, on a tendance à se dire, ah, c'est trop abstrait, ils sont trop jeunes pour ça, il faut repousser ça plus tard et remettre des choses plus concrètes. Mais en réalité, tout à l'heure, on parlait des langues. Si des enfants ont des difficultés avec les langues quand ils commencent à apprendre les langues, par exemple l'anglais à 10 ans, on va pas dire, ah, si c'est trop difficile à 10 ans, on va les faire apprendre à 12 ans ou à 15 ans. On va dire, non, il faut qu'ils apprennent le plus jeune possible. Et s'ils apprennent le plus jeune possible, eh bien, c'est là que la langue va rentrer le mieux. Eh bien, l'abstraction en mathématiques, c'est un peu la même chose. Et il faut pas avoir peur à parler de ça avec les enfants. Et c'est très jubilatoire avec eux. C'est-à-dire que quand on leur dit qu'un nombre, c'est une abstraction, on n'a pas vu, on ne voit pas des nombres quand on se balade dans la rue, un 3, un 4, c'est quelque chose qui n'existe que dans notre esprit, et qu'on va pouvoir, d'une certaine manière, créer des choses, faire des opérations avec, ou penser qu'une droite en géométrie, c'est infini, alors qu'évidemment, l'infini, on ne le voit pas concrètement. C'est quelque chose qui amuse beaucoup les enfants et dont il ne faut pas avoir peur. Et donc, voilà, il faut trouver cet équilibre-là. Voilà, après, pour savoir comment le trouver, c'est évidemment, il faut partir des enseignants. Moi, je ne suis pas sur le terrain tous les jours, donc c'est à eux de donner leur verdict et de dire ce qu'ils voient sur les terrains et dans quelle direction aller.
Et comment répondre aux problématiques qu'ils rencontrent? Mais encore faut-il, parce qu'ils sont obligés de le faire, respecter les programmes, ce qu'on leur demande aussi pour un examen tel que le brevet. Et il y a deux éléments très forts qui me semblent, mais peut-être est-ce une vue de mon esprit, se contredire. Alors vous allez me dire ce que vous en pensez, Charles Torossian. D'un côté, on parle beaucoup de manipulation. Pour les mathématiques, apprendre les mathématiques tout petit, c'est manipuler. Il faut du matériel. D'ailleurs, beaucoup d'écoles manquent de matériel et le disent. Et puis, il y a cette idée d'abstraction qui doit s'installer assez tôt dans l'esprit des petits. Et j'ajoute un autre élément, c'est la méthode de Singapour dont on parle tant et qui passionne absolument certains parents au point d'acheter des livres et de refaire des cours à la maison en s'inspirant de cette méthode. Alors, voilà. Quels doivent être nos repères?
Alors, merci Mickaël de préciser que l'abstraction, ça fait pas peur aux enfants, parce que les enfants adorent faire semblant. Quand on joue à la poupée avec sa fille ou avec son fils, on fait semblant d'être machin. Donc il y a des jeux de rôle, c'est de l'abstraction. La manipulation, c'est essentiel. C'est essentiel. Au collège aussi. Alors entre les mots manipuler et abstraire, il y a un mot encore plus important que vous avez prononcé, qui tourne autour du langage, c'est le mot verbaliser. En fait, il faut dire ce qu'on fait avec la main pour pouvoir le penser avec l'esprit. Et c'est souvent cette étape qui manque, en fait, dans les cours de mathématiques, où on passe d'une activité concrète, des bottes de paille, etc., tout ce que vous voulez, des jetons, des melons qu'on achète, à l'abstraction avec une leçon qui est donnée à la va-vite, un théorème qui est donné à la va-vite à la fin du cours, que ce soit à l'école primaire, au collège ou au lycée. Il manque en vérité un passage important qu'on va appeler en termes de didactique entre la manipulation et la verbalisation. C'est une des mesures phares de notre rapport, demander à tous les professeurs de dire ce qu'ils font et qu'est-ce qu'on apprend en faisant. Ne pas confondre le faire et l'apprendre, il faut le dire.
Et en ce qui concerne les difficultés qu'on peut rencontrer, est-ce qu'il faut se fier à d'autres méthodes, aller voir des vidéos sur YouTube, la fameuse méthode de Singapour qui est tant à la mode dont je viens de vous parler, ou retourner voir le professeur en disant « mon enfant n'a pas compris » ou quand on est élève, dire « je n'ai pas compris ». Sachant qu'un rapide sondage qui n'a aucune valeur, mais qui a été fait dans le bureau, donc qui comporte 3 personnes, a abouti à la conclusion que ce qui se passait mal, c'était qu'on ne pouvait pas, on n'avait pas le temps de se faire réexpliquer des points difficiles quand on était élève. Et plus on avance dans sa scolarité, et plus ce temps manque.
Et c'est pour ça qu'il faut avoir des méthodes un peu efficaces d'enseignement, c'est-à-dire une didactique claire. Tout n'est pas dans la pédagogie. Et c'est ça l'erreur qui est faite depuis 40 ans. Autour des mathématiques, on a pensé que la question pédagogique allait résoudre l'apprentissage en mathématiques. C'est pas suffisant. Il faut aussi avoir les idées claires sur les apprentissages et la manière dont on va les conduire tout au long de la scolarité et faire une sorte de cohérence. Ce que vous dites de la méthode de Singapour, en fait, c'est ce que faisait l'école française bien avant Singapour. Et donc, c'est qui base sur une sorte de mixte entre la pensée, l'abstraction, et puis le concret.
C'est-à-dire faire des dessins. C'est ce que je voulais dire à ma première
question.
J'ai
toujours dit à mes étudiants, écoutez, arrêtez de parler, faites un beau dessin, qu'on y voit clair. Donc, et ces dessins-là, vous voyez, moi j'ai été membre du jury de la Grecque pendant très longtemps, j'ai même présidé de la Grecque. Lorsqu'on a des professeurs qui sont stagiaires, qui sont à la Grecque, ils font une leçon, on voit rien au tableau. Il n'y a pas de dessin. C'est-à-dire que même le professeur en formation, et ça c'est sans doute aussi dû à notre enseignement à l'université, on n'a pas un dessin. Il m'est arrivé de demander de faire des dessins au moment du jury de l'agrégation à des étudiants qui passaient l'agrég. On m'a dit, mais j'ai le droit de faire un dessin. Vous imaginez, un étudiant qui se demande au jury, est-ce que j'ai le droit de faire un dessin pour expliquer ma pensée? Eh bien, c'est ça tout le malheur de l'enseignement, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas assez le concret. Pour apprendre les nombres, il faut commencer par manipuler des cubes. Je donne une image très simple que tout le monde va comprendre ici à cette audience. Vous voulez apprendre l'addition aux enfants, à la maternelle. Parce que, alors, c'est pas l'addition comme une loi de groupe, etc. Mais, qu'est-ce que c'est ? Les cubes. Donc, vous avez un cube dans une main et un cube dans l'autre. Lorsque vous les emboîtez l'un dans l'autre, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous avez un autre objet concret, mais c'est deux. Et donc, on est passé de 1 et 1 à un autre objet. Alors, qu'est-ce qu'il faut ici dans les écoles maternelles ? Il faut pouvoir que les cubes puissent s'emboîter l'un dans l'autre. Donc, il faut avoir du bon matériel. Il faut éviter les cubes qui ne se collent pas. Il faut pouvoir les mettre l'un dans l'autre. Et donc, comme ça, vous pouvez faire des petits trains. Vous avez le train du 3.
Ah oui, s'aligner, pas être à l'intérieur de l'autre cube. Parce qu'il faut faire attention à la visualisation. Moi, j'étais en train de voir autre chose.
Donc, ça fait des petits trains. Donc, si vous voulez, par exemple, le train du 3 et le train du 5. Et quand vous les emboîtez ensemble, ça fait le train du 8. Et le train du 8, vous pouvez le casser à nouveau. Et donc, vous pouvez le casser en 4 et 4, vous voyez. Et donc, vous pouvez jouer avec, comme ça avec les enfants qui ont 5 ans. Ça marche très, très bien. Ils se fabriquent des images mentales avec ces cubes qui s'emboîtent, les nombres qui deviennent de plus en plus grands, ces objets 3D qui ont tendance à devenir ces objets 2D que M. Under parlait au niveau du carré et du plan. Et puis, à la fin, ça devient des objets 1D. Donc, il y a une sorte de logique didactique, de diminution des objets. Mais pour ça, il faut fabriquer des images mentales, manipuler et surtout dire ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand le maître, par exemple, casse le cube, il faut qu'il dise qu'est-ce que je viens de faire. Eh bien, j'ai cassé mon train, vous voyez, j'ai en classe de maternelle, j'ai cassé. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai un 4 et un 4 dans la main. Et maintenant, je les remets ensemble, les 4 ont disparu, le 8 est apparu. Vous voyez, tout ce jeu, en fait, entre pédagogie et didactique, il faut savoir de quoi on parle.
Et le 8, c'est déjà en grande section de maternelle, parce qu'en première section de maternelle, on apprend à compter jusqu'à 3. Et ce que signifie 3 en tant que quantité, et c'est pas si simple à expliquer. Michael Launay, pour rebondir sur la méthode de Singapour et aussi ce qui a fait les mathématiques françaises, bon, qui sont très reconnues, il y a beaucoup de médailles, mais il y a aussi un apprentissage traditionnel des mathématiques en France qui a évolué dans le temps. On va pas refaire cette histoire ici. Est-ce que vous voyez des différences entre la méthode américaine, la méthode française, européenne, chinoise?
Là, je ne suis pas assez sur le terrain pour pouvoir vraiment bien en parler. Après, ce qui est certain, c'est que quand je vais voir effectivement des jeunes, il y a différentes méthodes, mais il y a aussi des cerveaux très différents. C'est-à-dire qu'on raisonne tous un peu de façon différente. Il y a des bases communes, évidemment, c'est-à-dire qu'on appartient à la même espèce, on raisonne, on a des mécanismes mentaux qui sont les mêmes. Et c'est toujours intéressant, voilà, de s'intéresser aux neurosciences, de s'intéresser à comment notre cerveau va fonctionner, et puis trouver les méthodes optimales, et puis essayer de s'inspirer de ce qu'on sait, de la façon dont les enfants apprennent, pour, devant eux, leur apprendre ça de la manière la plus efficace, la meilleure possible. Mais après, effectivement, il y a toute une variété d'images mentales. C'est-à-dire que les images mentales, on part d'une image mentale qu'on va donner aux enfants, puis après, chacun va se la faire différemment dans son esprit. Chacun va l'interpréter différemment, ce qui va faire que certains vont mieux comprendre une certaine notion, puis d'autres vont mieux comprendre une autre notion. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant de les faire échanger. Et l'enseignement, c'est pas seulement, c'est pas une science exacte, quoi. C'est-à-dire, c'est aussi un savoir-faire. C'est quelque chose qui doit se pratiquer. Il suffit pas d'avoir lu un manuel sur la meilleure méthode qui fait que les enfants ont les meilleurs taux de réussite à tel type de concours ou tel type d'examen, pour arriver devant les élèves, et puis d'un seul coup, ça va marcher. C'est-à-dire qu'il faut avoir une connaissance des élèves, il faut les suivre personnellement, il faut avoir une intuition de ça, il faut être devant eux au jour le jour. Et alors, les méthodes, c'est très intéressant, il en faut, mais des fois, il y a des profs qui n'ont pas du tout de méthode, mais qui ont juste les yeux qui pétillent devant les élèves et qui sont passionnés par ce qu'ils racontent et qui vont transmettre beaucoup plus qu'une méthode appliquée à la lettre. Et donc, c'est ça aussi qui fait toute l'ambiguïté et aussi la beauté de l'enseignement. C'est ce côté, il faut partir d'études, de choses qu'on connaît sur l'apprentissage, et puis après, il faut laisser un peu de liberté aux enseignants avec ça pour apprendre tout ça aux élèves.
Et vous qui êtes vidéaste et vulgarisateur, vous voyez comme un enseignant ou...
Ah non,
parce qu'on n'entend pas du tout. Hein.
Moi, j'ai le beau rôle là-dedans parce que je leur apprends rien. C'est-à-dire que moi, je fais du divertissement. Et la comparaison que j'aime bien faire, c'est de dire, quand on va à un concert de musique, eh bien, on passe un bon moment. Et quand on ressort de la salle, eh bien, on ne sait pas jouer de la guitare. Mais par contre, ça peut donner envie de s'y mettre. Et donc moi, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que quand les gens regardent mes vidéos, quand ils lisent les livres, quand je vais faire des conférences dans les établissements, eh ben, je leur apprends pas à résoudre des équations, je leur apprends pas à faire des produits scalaires, je leur apprends pas les choses techniques qui sont nécessaires pour à un moment donné rentrer dans les mathématiques et pour aller plus loin et plus en profondeur. Mais j'essaye de montrer des jolies choses et de donner cette envie de départ qui va faire qu'après cet effort, parce qu'évidemment, dans tout apprentissage de n'importe quelle matière, il y a toujours à un moment donné de la technique et des efforts, et il y a des choses qui sont dures, mais cet effort, on y consent plus volontiers si on y prend du plaisir.
Caroline Cournil, qui est enseignante au lycée, est avec nous au téléphone. Alors, au moment où on enregistre cette émission, se déroulent des épreuves du bac anticipé, les E3C, donc pour le bac 2021, ça concerne des élèves de première. Justement, avec la réforme du bac, ce qu'on a vu, c'est que beaucoup d'élèves de première, plus des deux tiers, choisissaient une spécialité maths qui s'est avérée très difficile pour certains. Enfin, est-ce que c'est bien ça qui s'est passé, Caroline Cournil?
Oui, bonjour. Effectivement, moi je suis au lycée donc à Damary-des-Lys, à côté de Melun, donc en banlieue parisienne. Et ben, nous, cette année, on a effectivement 5 groupes de spécialités, donc des élèves qui ont choisi de continuer les mathématiques en première. 5 groupes à 35, puisque l'enseignement au lycée, c'est presque que des classes de 35. Et on a un programme très difficile à faire puisqu'il correspond à un programme anciennement de première S et avec des élèves qui ont choisi maths pour soit ne pas abandonner les maths, soit pour poursuivre des études scientifiques. Donc c'est pas toujours le même but et le programme est pas très adapté à tous les élèves. Donc on a vraiment un gros problème au niveau de nos groupes en première. D'ailleurs, il y a beaucoup d'élèves qui envisagent d'abandonner la spécialité mathématique en terminale puisqu'elle leur semble trop dure et avec les moyens qu'on a de l'enseigner, elle est effectivement trop dure.
Est-ce que pour vous aujourd'hui, le fait qu'on ne puisse plus continuer les mathématiques comme on pouvait le faire avant dans une filière qu'on appelait ES par exemple, où il y avait des mathématiques mais qui étaient moins difficiles que celles de la filière scientifique, ça risque de faire abandonner les mathématiques à plus d'élèves? Est-ce que c'est un problème d'ailleurs à vos yeux, vous qu'enseignez les mathématiques au lycée?
Alors pour moi, il y a deux problèmes, c'est-à-dire que déjà, l'enseignement des mathématiques n'étant plus dans le tronc commun, on dit aux élèves de seconde, et ils l'ont très bien compris, que les mathématiques, potentiellement, ils ne seraient jamais évalués dessus pour leur baccalauréat. Donc déjà, il y a ça, et on dit aussi que les mathématiques, bah, ça fait pas vraiment partie de la culture générale, en tout cas, passer la seconde, c'est plus la peine. Donc déjà, il y a ça qui, moi, me pose un problème. Et surtout, effectivement, ce problème des élèves qui choisissaient anciennement la filière ES, alors au-delà de la difficulté du programme de ES par rapport à celui de S, c'est surtout le point de vue qui était adopté. C'est-à-dire que sans aller jusqu'à considérer les maths comme un outil, en ES, c'était pas du tout la même approche. Par exemple, il n'y avait pas de géométrie, parce que pour faire de l'économie, bah, il n'y a pas forcément besoin de faire de géométrie, et surtout les élèves de ES, puisque moi j'en ai encore cette année, j'ai encore des terminales ES et des terminales S, ils n'ont pas du tout le même point de vue et la même façon d'aborder un problème de mathématiques. C'est-à-dire que quand on leur enseigne des nouvelles choses, il va falloir à un moment donné justifier ça sert à quoi. Bah, par exemple, toutes les études de fonctions, ça sert à modéliser des phénomènes. Une fois qu'on a justifié ça, les élèves de ES sont tout à fait partants pour apprendre des nouvelles choses. Chez les élèves de S, c'était pas forcément la peine de justifier l'apprentissage d'un outil. En général, il y en a beaucoup qui aiment les maths pour les maths, entre guillemets, et donc, si ça leur paraît intéressant, ils l'apprennent sans forcément avoir besoin de justification. Et du coup, actuellement, en première, eh ben, on a ces élèves qui donc n'ont pas le même point de vue sur les mathématiques et qui sont dans la même salle et qui doivent faire le même programme. Ça pose des difficultés pour l'enseigner.
Pour vous qui êtes enseignante au lycée, mais tout de même en mathématiques, ce qu'on sait, c'est que beaucoup d'élèves, parce que c'est une filière, et on l'a dit en début d'émission avec Isabelle Gallagher, c'est une filière qui sert beaucoup à sélectionner. Les mathématiques contiennent un enjeu très fort en termes de poursuite des études, parce que c'est demandé dans le cursus pour certaines écoles, et pas que des écoles d'ingénieurs, hein, d'avoir choisi cette spécialité mathématique. Et il y a donc un stress autour des mathématiques. Est-ce que vous le ressentez?
Oui, alors en seconde, puisque j'ai aussi des secondes, ils commencent à demander, là, à partir de janvier, ils viennent voir leur prof de maths et ils demandent, moi, je veux faire tel métier dans la vie, pour ceux qui ont la chance de savoir ce qu'ils veulent faire, et ils demandent, est-ce qu'il faut faire des maths pour faire ça? C'est-à-dire, c'est même pas est-ce que j'aime les mathématiques, est-ce que j'ai envie de continuer à en faire, est-ce que éventuellement j'ai le niveau pour suivre, c'est juste est-ce qu'il va me falloir cette option pour continuer ou pas. Il y a ça, et deuxième chose, évidemment, il y a toujours une espèce de vision des mathématiques comme critère pour décider si on a un bon élève ou pas. Et ça, la spécialité entretient encore plus ça. C'est-à-dire que pour les élèves qui vont passer en première générale, bah, y a ceux qui vont pouvoir prendre la spécialité mathématique ou pas. Ça, c'est les élèves, c'est leur vision, c'est exactement comme ça qu'ils le ressentent.
Des choses qui ne changent pas, en tout cas, c'est installé depuis longtemps comme vision des choses. On va y revenir, mais puisque vous enseignez, j'ai une autre question sur les cours particuliers, parce qu'on sait que la France est championne d'Europe des cours particuliers payants, mais aussi des cours gratuits, mais pour les cours payants, nous sommes champions, et ça concerne en premier lieu les mathématiques.
Oui, alors ça, on en a. Enfin, il y a toujours des élèves dans les classes qui, même dès la première semaine de septembre, les parents ou l'élève d'ailleurs, ont décidé qu'il fallait des cours particuliers en mathématiques, parce que quand on n'est pas bon en maths, ça c'est une phrase qu'on a énormément, au mois de septembre, on a toujours des élèves dans les classes qui nous disent « je suis nul en maths, ça sert à rien ». Et donc évidemment, ceux-là, ceux qui ont besoin des maths, soit les parents payent des cours particuliers, soit les élèves veulent des cours particuliers. Et du coup, on part du principe que le seul cours de maths fait au lycée ne suffit pas à apprendre correctement les mathématiques. Alors qu'a priori, on ne pose pas ce même constat sur les autres matières.
Charles Torossian, j'ai bien envie de vous entendre sur ce sujet, les cours particuliers qui font florès vraiment en France sur les mathématiques en particulier, si vous me passez l'expression, et donc qui maintiennent dans l'idée que c'est extrêmement difficile et surtout que c'est très compétitif.
On aura le temps peut-être de parler aussi de la place de l'erreur en fait en mathématiques dans les apprentissages, quelque chose que les enseignants malheureusement laissent pas assez passer, c'est-à-dire, je pèse bien mes mots, c'est-à-dire que l'erreur est toujours la source de l'inspiration des mathématiques.
Donc, mais là, vous entendez que les élèves sont évalués oui, mais pour les E3C, ils le sont de plus en plus.
Il y a des choses. Il ne faut pas confondre l'évaluation avec ce qu'on apprend dans le cours et l'état d'esprit. Les mathématiques, c'est un état d'esprit. C'est la curiosité, la capacité à imaginer l'impossible, c'est la persévérance. C'est pour ça que Michael Launay disait à juste titre, c'est les maths, c'est dur, c'est vous l'apprendre de ski, c'est-à-dire ça ne vient pas tout seul, il faut faire quelques efforts. Et donc la persévérance, le courage, mais aussi la transgression. Les mathématiques, c'est pouvoir imaginer l'impossible. Ça, c'est une leçon de vie pour la suite.
On adore ce discours sur les mathématiques. Et quand on regarde des vidéos sur YouTube, formidable.
Je donne un exemple.
Mais quand on entend ce qui se passe au lycée et la manière dont les élèves font leur choix et ressentent les mathématiques comme une obligation, on est loin de la transgression, de ce qui s'apparente
aussi,
au sport.
Ça vient aussi un petit peu de la didactique, et je vais reprendre deux exemples que j'ai vus moi-même quand je passe dans les classes. En classe de CM2, vous voyez, un jeune élève avec tout son groupe, il devait mesurer un angle. La maîtresse ou le maître, je ne me souviens plus, avait choisi une méthode. Et il se trouvait que dans le cartable de l'élève, il avait un rapporteur, et puis donc pour mesurer les angles. Et puis il a réussi à trouver comment ça fonctionnait tout seul. Et la maîtresse lui a dit, mais écoutez, non, il faut que tu ranges ça. Ça, c'est le programme de sixième. Vous voyez, c'est la frustration, c'est-à-dire que l'élève avait trouvé quelque chose, il avait découvert par lui-même, il avait réalisé ce coup de génie de découvrir par lui-même comment fonctionnait un rapporteur, et on lui dit, non, ça, c'est le programme de sixième. Quand au collège, un élève divise par zéro en disant, non, c'est impossible, c'est interdit. Interdit. Le mot interdit, c'est pas un mot qui existe en maths. Vous voyez? Et toutes ces choses-là contribuent, en fait, à détériorer l'image des mathématiques.
Il faut que les enseignants vous répondent, parce que Raphaël Ander est peut-être encore là. Est-ce qu'il y a une responsabilité des enseignants, parfois, à ralentir les élèves? Parce que si on écoute Charles Torossian, ça vient un peu de l'école, le fait de casser le plaisir des mathématiques. Qu'est-ce que vous répondez?
Alors, je ne suis pas l'avocat de l'ensemble des enseignants de mathématiques de France.
Mais vous êtes enseignant.
Mais je suis enseignant, alors j'espère pas casser effectivement l'enthousiasme de mes élèves. Par contre, quand j'entends effectivement ce qui vient d'être dit, je trouve que là, on est en plein dans les injonctions contradictoires, parce que moi, j'essaye de faire autant que possible mon métier, suivant ces grandes idées, laisser la place de l'erreur, laisser la place à la recherche, etc. Sauf qu'à la fin, en fait, il faut évaluer sous une forme qui est extrêmement restreinte, sous la forme de contrôle bilan avec des exercices dans lesquels effectivement la marge d'erreur en fait elle n'existe pas, et avec à la fin les examens, le brevet, les E3C, etc. Donc on est quand même tiraillé en tant que professeur de mathématiques entre des injonctions qui sont extrêmement contradictoires. C'est ça que moi j'entends là.
Michael Lenné, est-ce que pour faire des mathématiques plaisir, si on peut utiliser cette formule, il faut sortir de l'évaluation, et est-ce que vous avez des retours de gens qui regardent vos vidéos et qui se disent que voilà, les mathématiques hors contexte scolaire, c'est quand même un peu plus détendu?
C'est toujours un peu plus détendu quand on fait ça sur son temps libre parce qu'on en a envie, c'est-à-dire que forcément c'est une démarche qui est totalement différente, donc c'est même pas vraiment comparable. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un décalage énorme entre les mathématiques telles qu'on voudrait qu'elles soient enseignées, telles que voilà, faire des maths pour les maths, pour le plaisir, telles que les gens qui aiment les maths voudraient les pratiquer, la façon dont c'est réalisé.
C'est aussi, c'est pas forcément les professeurs, c'est le fait d'être à l'école, dans un contexte d'évaluation, dans un contexte d'orientation.
Alors, c'est évident que ça crée de la pression. Ceci dit, cette pression, elle n'existe pas dans toutes les disciplines. Et c'est vrai que le fait que les mathématiques, aujourd'hui, soient considérées comme une matière de sélection, les enfants le savent très tôt et ça crée une angoisse. C'est-à-dire que si on ne réussit pas en maths, eh bien, ça crée une angoisse qui n'existe pas sur d'autres disciplines. Et puis, c'est une matière qui est très spécifique. C'est une matière où, quand on décroche une année, c'est très difficile de rattraper les années d'après. C'est-à-dire qu'autant en histoire géo, si on rate l'Antiquité, on peut encore se débrouiller sur le Moyen-Âge. Il n'y a pas forcément besoin de connaître bien l'Antiquité. Alors que si on rate l'apprentissage des fractions à un moment donné, eh bien, ça va nous suivre pendant tout le collège, tout le lycée, et cette chose-là, si c'est pas rattrapé. Et donc, il y a cette spécificité en maths qui fait que c'est vraiment, ça se cumule. Et oui, c'est compliqué, j'ai pas de solution absolue. Moi, je constate des choses quand je vais dans des établissements, mais je pense qu'il faut vraiment, encore une fois, partir des enseignants et de leurs témoignages pour améliorer tout ça.
Charles de Rossian, il vous reste encore beaucoup de travail quand même, quoi, en écoutant les professeurs ou même le constat dressé par Michael Lenné dans ses visites et ses rencontres avec des élèves aussi.
Oui, ben, Michael Lenné et les professeurs ont raison. Quand Michael Lenné dit eh ben, si on a loupé les fractions, ça va être difficile au collège. Et notre collègue qui parlait du DNB, et sans doute le constat
du
brevet, le constat tous les jours. C'est pour ça que, pour nous, il est fondamental que les apprentissages fondamentaux, justement, soient solidifiés pour qu'on n'en parle plus et qu'on fasse enfin quelque chose qui va rester tout au long de sa vie autour de la curiosité et de l'interrogation. Donc, j'aime bien prendre l'exemple des décimaux. Les décimaux, ça commence normalement en novembre, au plus tard en novembre de CM1. C'est ce qu'on demande. Vous savez que dans l'académie de Créteil, il y a des enfants qui sortent du CM2, ils n'ont pas vu les décimaux. Alors après, c'est un peu difficile pour les professeurs en 6e de rattraper. Donc tout ça, c'est une sorte de cohérence. Et donc il y a ça, et puis il y a essayer effectivement d'avoir disons un langage commun autour de ce qui est important.
Avec des professeurs qui soulignent, on a entendu, le grand écart entre les injonctions et le terrain, mais l'heure s'est écoulée pratiquement. Merci beaucoup à tous les deux, à tous les quatre, avec les enseignants qui étaient au téléphone. Merci beaucoup Michael Lenné. Je rappelle le titre de votre livre, Le théorème du parapluie ou l'art d'observer le monde dans le bon sens. C'est publié chez Flammarion. On a parlé de vocabulaire des mathématiques. Il y a évidemment Stella Baru qui a beaucoup travaillé sur la question, qui a republié il y a peu de temps son grand dictionnaire des mathématiques. C'est publié donc au Seuil. Je vous indique un ouvrage de Sylvie Dodeler sur Sophie Germain, La femme cachée des mathématiques. On sait que c'est un enjeu aussi. C'est publié chez l'École des Loisirs dans la collection Medium. Et puis Les mathématiques en BD, je n'ai pas tout compris. C'est publié aux éditions Erol et c'est une bande dessinée qui a été faite par un illustrateur et un économiste mathématicien. Et en plus des livres, j'indique une vidéo qu'on n'a pas eu le temps de diffuser de Michael Lenné. C'est une vidéo sur les années bissextiles où on comprend quel jour on est né l'année suivante, si on est né un 29 février. Et comme nous sommes une année bissextile, je pensais que c'était intéressant. Donc vous la retrouverez en lien à la page de l'émission. Dans un instant, la dernière partie de l'émission, la leçon de choses de Sophie Bobert.